Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada.
Bonjour Éric Trappier, président de Dassault Aviation.
Bonjour.
Vous venez de présenter les résultats de Dassault Aviation pour 2023, un peu moins bon par rapport à 2022. Les commandes sont en baisse, mais dans ce contexte, le Rafale se porte plutôt bien.
Oui, c'est une baisse par rapport à une année 2022 totalement extraordinaire avec le contrat des Émirats Arabes Unis pour 80 Rafales. Néanmoins, l'année était une très bonne année de prise de commande, puisque 8 milliards, c'est plus d'un an de chiffre d'affaires, largement. C'est surtout la réussite de la vente à l'Indonésie qui s'est concrétisée par l'arrivée de 18 avions cet été et 18 avions en début d'année, qui ne sont pas comptabilisés d'ailleurs dans la prise de commande 2023. Donc c'est un moment Rafale, avec aussi l'annonce d'acheter 26 Rafales pour l'Indian Navy. Tout ça fait un grand moment pour le Rafale qui se poursuit après l'année 2022.
Vous envisagez d'augmenter les cadences à 3, jusqu'où vous pouvez aller ?
Alors, on a décidé d'augmenter les cadences déjà depuis un certain temps. Donc, on passe de moins de 1 à 2. On arrive à 2 avec difficulté parce que la supply chain souffre, mais on y arrive. Et on passera à 3, on est en cours. Si d'autres commandes arrivaient de manière importante, on serait amené à passer au-delà de 3 et on verra à ce moment-là.
Vous évoquez toujours des problèmes avec la supply chain ?
Oui, un petit peu sur le Rafale. On a loupé notre guidance qui était à 15 et on a livré que 13 Rafales en 2023. En réalité, les deux avions manquants, on les a livrés en début d'année. Donc, c'était un petit peu tendu, mais finalement, on fait les 15. C'est plus compliqué sur les Falcons parce que c'est plus disséminé. Il y a des chaînes de fabrication avec des fournisseurs sur le 2000, sur le 8X, sur le 6X, demain sur le 10X, encore un peu sur le 900. Donc, c'est un petit peu plus difficile à gérer ces pénuries qui arrivent de nos sous-traitants, qui ont des difficultés de main-d'œuvre, des difficultés eux-mêmes avec leurs propres sous-traitants. Et donc, avec aussi un centre en Arkansas, à Little Rock, qu'il faut rattraper, il faut envoyer des équipes à l'autre bout du monde. Bref, c'est un tout petit peu plus compliqué pour le Falcon, d'où les livraisons un peu difficiles. Sur le Falcon, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est qu'on est en phase de transition. On passe à la nouvelle gamme de Falcon. Le 6X arrive. Il aurait dû arriver un peu plus tôt, mais les certifications sont compliquées. Après les accidents de Boeing en particulier, ça prend beaucoup plus de temps. D'ailleurs, on le voit aussi chez nos concurrents Gulfstream qui n'ont pas encore certifié le G700. Donc, quelque part, ça a pris plus de temps. C'est décalé. On espère maintenant que le 6X est totalement opérationnel, que les choses vont s'améliorer en termes de 6X. Il restera à gérer bien notre supply chain.
Quels moyens vous avez pour soutenir cette supply chain en difficulté ?
Alors, en réalité, ceux qui souffrent le plus sont plutôt en Europe, en France principalement. Donc, c'est les fabricants d'aérostructures. Donc, ce sont des métiers qu'on connaît bien, puisqu'on en fait nous-mêmes chez nous, dans nos usines. Et donc, on envoie des équipes pour les aider à faire, des équipes de management industriel. On leur envoie des fois des équipes de compagnons. On s'assure que, quelque part, ils ne tombent pas en faillite, soit en avançant des paiements, soit d'une certaine manière en demandant à certains fonds de permettre l'addition de fonds propres pour monter en cadence. On a aussi à faire face, entre guillemets, à la compétition de la montée en cadence d'Airbus, qui est forte aussi, et qui eux aussi ont des difficultés sur cette montée en puissance avec les fournisseurs. Donc c'est l'expertise, nous, principalement. Et si ça va très mal, on change de fournisseur. Donc il faut envoyer des équipes pour être capable de faire ce changement de fournisseur vers d'autres sociétés que l'on connaît et dans lesquelles on peut s'appuyer pour reprendre ces fabrications, voire nous-mêmes les reprendre.
Vous êtes très satisfait du Make in India ?
On est très satisfait du Make in India. Pour l'instant, vous savez qu'on fabrique du Falcon. Hein. Donc on fabrique le T12 et le T4 du Falcon. C'est à l'heure, c'est la qualité, ça coûte moins cher. Donc l'expérience est réussie, malgré quand même 2 ans difficiles avec le Covid en Inde. Donc ça a ralenti beaucoup de choses. Mais voilà, sur la base de cette expérience réussie, on travaille aussi avec de nouvelles compagnies en Inde, avec une supply chain indienne aussi. On va monter en puissance, on n'est pas les seuls. Là aussi, c'est complexe, puisque Boeing, Airbus, Safran sont aussi en Inde pour faire cette montée en puissance de l'industrie aéronautique indienne. Donc on est à leur côté, en parallèle, pour faire de la montée en puissance. On prépare aussi l'avenir du Rafale, d'une certaine manière, en fabriquant des pièces là-bas.
Avec la guerre en Ukraine et les conflits mondiaux qui se multiplient un peu partout, vous croyez un petit peu plus à l'Europe de la défense ? Il y a quelques pas qui sont faits ?
En termes de théorie, oui. En termes de pratique, non. Car face à une menace qui devient prégnante, urgente, à nos portes. La seule force organisée aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et donc, on sent bien que les Européens souhaitent plutôt une OTAN renforcée qu'une Europe de la défense autonome. Alors, se pose la question de savoir si les Américains jouent pas l'OTAN. Je pense que les intérêts des Américains, c'est de préserver l'OTAN, de fournir aux Européens des matériels américains. Donc oui, il faut faire l'Europe de la défense, mais ça prendra encore beaucoup de temps. Donc en attendant, il faut se réassurer entre pays. N'oublions pas que la défense est une affaire de chaque pays. Chaque pays peut travailler avec un autre pays. Que la Commission européenne s'intéresse à la défense, c'est très bien, c'est une belle prise de conscience. Mais loin s'en faut d'être capable de faire une armée européenne, de faire des fournitures européennes pour répondre aux besoins des armées européennes dans les années qui viennent. Ça prendra beaucoup de temps, mais il y a une impulsion qui est là. Donc il va falloir travailler en parallèle sur plusieurs scénarios. L'OTAN, certains pays européens, par crainte des Russes, continueront à acheter du matériel américain pour des raisons de réassurance, on va dire. Nous, on continuera à monter en puissance. C'est la volonté du chef de l'État. On parle même d'économie de guerre. Alors bon, c'est encore modeste, mais c'est bien ça qu'il va falloir faire dans les années qui viennent, cette prise de conscience que malheureusement, la guerre n'est pas totalement éliminée du spectre des années à venir et qu'il faut savoir y faire face, ne serait-ce que pour l'éviter. Si on est prêt à faire la guerre, on doit pouvoir mieux l'éviter que si on n'est pas prêt.
Où en est le SCAF aujourd'hui ?
On travaille ici à Saint-Cloud, entre les équipes allemandes d'Airbus, les équipes espagnoles d'Airbus et nos propres équipes. Vous savez qu'on a le leadership de ce pilier 1 qui est l'avion de combat. Donc on est sur les études détaillées de ce que pourrait être un démonstrateur. Donc aujourd'hui, on travaille sur la forme de l'avion, on travaille sur comment on fera cet avion, qui fabriquera quoi, qui doit donner lieu à un deuxième contrat de fabrication qui arriverait potentiellement en 2026 pour un premier vol en 2029. Donc les choses se passent normalement.
On revient au civil, on a parlé du 6X, le 10X.
Le 10X, donc, on l'a recalé parce que là aussi, comme on avait démarré toutes ces études en plein Covid, ça n'a pas forcément été totalement efficace. Donc on a toujours des conséquences de ce Covid qu'on paye aujourd'hui, avec des fournisseurs aussi qui étaient en difficulté. Le 6X s'est retardé, donc nos équipes étaient très occupées sur le 6X, ça a pesé aussi sur le calendrier du 10X. Donc on a recalé totalement le planning du 10X, et donc maintenant tout le monde est sur le même planning, avec des engagements de nos fournisseurs, pour faire en sorte que les 10X arrivent en 2027.
Alors sujet récurrent également, taxonomie, développement durable.
Bah écoutez, nous, on s'inscrit fortement dans la volonté de décarboner l'aviation, à partir de plusieurs moyens. Nous, on croit plutôt dans les fuels alternatifs, les fameux SAF, les SAF green dans un premier temps, les ISAF dans un deuxième temps à partir d'hydrogène. On croit qu'un certain nombre de sociétés vont investir dans ces domaines-là pour fournir largement. Nous-mêmes, on vole déjà avec 30% de SAF tous les jours au sein de Dassault Aviation, donc on économise déjà. Et donc on est très mécontent des décisions de la Commission européenne sur la taxonomie de ne pas nous intégrer, puisqu'on avait compris du règlement de la taxonomie, c'est que ceux qui allaient vers la décarbonation, ceux qui faisaient les efforts, ceux qui contribuaient, devaient être pris dans la taxonomie. Et que par conséquent, le fait de nous exclure, alors même que nous volons avec des SAF et que nous fabriquons des avions capables de SAF, est un petit peu incohérent de la volonté initiale de la taxonomie. Donc on craint que ça soit uniquement politique. Et on ne comprendrait pas que la Commission prenne des décisions politiques et non pas des décisions juridiques. Donc on va faire un recours juridique au regard de la Commission sur notre bonne volonté de décarboner l'aviation, la business aviation et l'aviation générale en général. D'ailleurs, si vous volez aujourd'hui dans un avion, vous êtes dans la taxonomie si vous avez des SAF. Mais si vous fabriquez un avion capable de SAF, là vous n'êtes pas dans la taxonomie. Ce qui handicape qui ? La seule société européenne d'aviation d'affaires qui est Dassault face aux sociétés américaines qui n'ont pas cette pénalisation. Donc honnêtement, l'Europe ne défend pas les Européens.
Décision totalement incohérente.
Totalement incohérente, et donc on espère bien qu'il y aura une revue de ce sujet-là pour remettre le droit, voire le bon sens au milieu du village.
Vous allez continuer à embaucher cette année. Quels sont vos besoins? Quels sont les métiers en tension?
Alors on a embauché 1700 personnes en 2023, on va en embaucher à peu près 2000 en 2024. Les métiers en tension sont quasiment tous les métiers. On a besoin de compagnons sur les chaînes de fabrication, un petit peu partout, puisqu'on monte les cadences principalement sur le Rafale. Mais on arrive aussi avec des nouvelles cadences sur le 6X, par exemple, qui est le nouveau venu. On a besoin d'ingénieurs, parce que nos développements sont conséquent, on continue à développer le 10X, on continue à développer le Rafale avec les standards F4, on va préparer le F5, on a le NGF, on travaille aussi sur des drones, en particulier sur un UCAV. Bref, on a beaucoup de travail. Dans le soutien, comme on a de plus en plus de clients à l'exportation, on a besoin de gens qui s'assurent du soutien de nos clients à l'autre bout du monde. Idem pour les Falcons. Donc, d'une manière générale, la société a besoin de talents nouveaux, de jeunes qui rentrent et qui se forgent le caractère et la capacité au sein de la maison. On a beaucoup de gens qui partent à la retraite aussi, parce que ça correspond à des tranches d'âge où on embauchait beaucoup à une certaine époque. Donc, on est en pleine phase d'augmentation de nos effectifs.
Merci Eric Trappier, PDG d'Asso Aviation, pour le podcast de l'aviation.
Merci à vous.